J'ai le grand plaisir de vous présenter Caterina Donati. Caterina est une vraie linguiste, une théoricienne. Je pourrais citer par exemple son livre assez récent avec Carlo Cecchetto sur des questions très techniques de construction des arbres syntaxiques qu'on a vus, sur l'étiquetage, l'assignation d'étiquettes aux arbres syntaxiques, aspect technique à partir duquel on peut tirer toutes sortes de conséquences extrêmement intéressantes. Mais elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres propriétés du langage, entre autres de bilinguisme. Donc c'est un peu le cas parfait pour initier cette série de séminaires qui essaye de mettre ensemble la théorie grammaticale et l'acquisition du langage. Donc merci et bienvenue.
Merci. Merci Luigi. Alors merci pour Luigi pour ton invitation et ta présentation. Alors aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui concerne surtout l'état cognitif stable, d'accord. Donc l'arrivée hein, du développement dont a parlé, commencé à parler Luigi dans sa leçon. Et en particulier je vais parler de bilinguisme. Et je vais m'interroger, comme beaucoup se sont déjà interrogés, sur ce qui se passe aux deux langues d'un bilingue quand il parle, ou elle écoute une des deux langues. D'accord ? Et je vais le faire, comme Luigi l'a annoncé, avec une perspective un peu particulière, parce que je vais surtout m'attacher à regarder ce que fait une population de bilingues assez spéciale, c'est-à-dire les bilingues que je vais appeler bilingues bimodaux, c'est-à-dire des bilingues qui parlent, qui connaissent une langue des signes et une langue parlée. Donc deux langues qui appartiennent à deux modalités différentes, la modalité signée et la modalité orale. Et vous comprendrez pourquoi c'est particulièrement intéressant. Comme je parle de bilinguisme, je vais aussi susciter votre bilinguisme. Donc mes diapos sont en anglais et je vais parler en français. Donc vous allez être obligés, pendant ce séminaire, de coactiver les deux langues que vous connaissez. Et d'ailleurs, on va vraiment s'occuper de la coactivation. C'est-à-dire qu'on va se demander ce qui se passe à la langue qui n'est pas, qui est silencieuse, à la langue qui n'est pas utilisée, pendant qu'on utilise l'autre langue quand on est bilingue. Okay ? Alors, le bilinguisme est un phénomène très global, hein, c'est peut-être la norme pour la plupart des populations. On peut être bilingue de façon très différente. On peut être bilingue parce qu'on a appris une deuxième, une troisième, une quatrième langue à l'école ou au lycée, ou bien parce qu'on a une appli sur son téléphone. Mais on sait que certains bilingues, surtout des individus qui ont été exposés à deux langues très précocement et de façon plus ou moins simultanée, donc on sait que certains bilingues peuvent vraiment posséder deux langues maternelles. Donc, ont une compétence dans deux ou plus langues qui s'apparente à la compétence de locuteur natif. C'est surtout ces bilingues-là, ces bilingues, disons, équilibrés, qui vont m'intéresser aujourd'hui. D'accord ? Alors, la question que beaucoup se posent est comment ces deux langues coexistent dans l'esprit ou dans le cerveau ou dans la tête, on va dire, de ces individus. Donc, ceci est le plan de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais vous parler brièvement de ce qu'on sait sur la coactivation des langues. Et on va aussi parler d'un phénomène qui est lié à cette coactivation, c'est-à-dire la capacité de jongler très rapidement entre les deux langues dans la production d'un bilingue. Et puis, on va commencer à regarder ce que font les bilingues bimodaux, justement. Et on va regarder à des données de production spontanée que j'ai recueillies dans les dernières années et à deux expériences de compréhension qui concerne toujours ces populations. Donc les données de production spontanée concernent plutôt des enfants et les expériences de compréhension concernent des adultes et j'expliquerai pourquoi on s'est adressé à deux populations différentes pour regarder à ces phénomènes. Donc qu'est-ce que je veux dire par coactivation linguistique ? Alors on a des évidences très robustes et très hétérogènes qui montrent qu'en fait, les deux langues sont toujours actives quand un bilingue est en train est engagé dans une tâche linguistique. D'accord ? Donc, quand un bilingue parle ou écoute une des deux langues, il y a des évidences qui montrent que l'autre langue est aussi active. D'accord ? Ceci veut dire, cette activation parallèle des deux langues, veut dire que donc il peut y avoir des influences de la langue silencieuse sur la langue qui est utilisée dans le moment précis, même quand le bilingue n'est pas du tout conscient de cette influence. D'accord ? Le bilingue est en train de parler une seule langue, il est conscient de parler une seule langue, mais l'autre langue a aussi des effets. D'accord ? Donc, c'est un phénomène très intéressant. Et ce que je voudrais discuter avec vous, c'est quelles sont les limites, quelles sont les formes que prend cette coactivation. Certainement, le fait que les deux langues soient à un certain degré toutes les deux actives signifie qu'elles sont en compétition potentiellement pour être parlées, d'accord, pour être utilisées, pour sortir de la bouche, si vous voulez, et que donc elles aussi sont en compétition du point de vue des ressources cognitives du locuteur. Elles en utilisent un peu toutes les deux. Et donc, être bilingue, ça veut dire aussi avoir appris à contrôler cette compétition et la réguler, hein, de façon à gérer cette double compétition. D'accord ? Alors, certaines études suggèrent que cette nécessité systématique de devoir résoudre cette compétition et de devoir silencier une des deux langues est à l'origine de certaines habiletés cognitives qui seraient propres des bilingues. D'accord ? Certaines études montrent que les bilingues sont très forts à faire certaines choses et l'origine pourrait en être cette habitude à devoir toujours gérer ces deux langues qui sont en compétition. Il y a plusieurs évidences d'origine différente qui montrent ces effets de coactivation, qui elles peuvent être d'imagerie numérique, elles peuvent concerner mettre en place des méthodes sophistiquées. Mais ici, je vais vous donner des exemples au contraire très simples qui concernent la reconnaissance des mots ou la production des mots. Et pour ce faire, je vais juste introduire une distinction entre ce que je vais appeler un cognat et ce que je vais appeler un homographe ou un homophone. D'accord ? Donc deux mots dans deux langues, on va les appeler cognats quand ils ont plus ou moins la même forme et plus ou moins le même sens. D'accord ? Donc par exemple, piano, en anglais et en français, ce sont des cognats, parce qu'ils veulent dire la même chose et plus ou moins ils ont la même forme. D'accord ? Au contraire, des homographes, ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup dans les deux langues, soit du point de vue de l'écriture, homographe, ou du point de vue de la façon dont ils sont prononcés, homophones, mais qui ont un sens différent. Donc, par exemple, smoking, en français, c'est un habit, tandis qu'en anglais, c'est une action malsaine. Et alors, dans ce genre d'expérience, ce qu'on mesure, c'est la capacité et surtout la rapidité des bilingues, de reconnaître ou de produire des mots qui ont été choisis en fonction de l'existence dans la langue qui n'est pas utilisée dans la tâche d'un cognat ou d'un homophone. D'accord ? Et ce qu'on s'attend, c'est que si la langue silencieuse est active, les bilingues devraient avoir un effet de facilitation quand il y a un cognat, et au contraire d'interférences, et donc par exemple, vont être plus lents quand il y a un homographe qui va les distraire dans une direction qui n'est pas la bonne. D'accord ? Et cet effet a été trouvé de façon pervasive dans une grande variété de tâches qui va de la lecture de mots isolés, la lecture de phrases, l'écoute de mots isolés, l'écoute de phrases, et même quand des bilingues sont engagés dans une conversation spontanée dans une des deux langues. D'accord ? Donc c'est un effet très fort qui peut se mesurer assez facilement. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette coactivation ne dépend pas ressemblance des deux langues. D'accord ? On trouve ces effets de coactivation même quand les deux langues qui sont impliquées dans le bilinguisme ne partagent pas, par exemple, le système d'écriture. D'accord ? Donc, cette coactivation ne dépend pas de la matérialité du mot impliqué. Donc, par exemple, on a trouvé des effets de coactivation du genre que j'ai décrit chez des bilingues chinois-anglais ou japonais-anglais, d'accord, où les deux langues ont des systèmes d'écriture très, très différents. D'accord. Et on a trouvé ces effets de coactivation, et ici, je commence à arriver vers mon sujet, aussi dans des bilingues bimodaux. D'accord. Donc, quand les deux langues ne partagent pas la même modalité, D'accord ? Donc, par exemple, il y a une étude que je vais très brièvement décrire de Jill Mulford qui montre que des bilingues anglais et ESL ont des effets de coactivation, même si la notion de... de cognat demande une définition plus abstraite par rapport à celle que j'ai donnée, vu que la modalité n'est même pas la même. D'accord ? Donc, ces effets de coactivation à travers les modalités ont été montrés justement par cette étude de Jean Mulford en premier en 2011 et impliquaient des bilingues sourds de ASL et anglais. ASL, c'est American Sign Language, la langue des signes américaine. Et la tâche où ils étaient impliqués concernait des jugements de relations. Donc, les participants voyaient des paires de mots en anglais et ils devaient dire si ce mot était relié ou pas, d'accord, sans autre instruction. La tâche était complètement en anglais, écrite. Il n'y avait aucun ASL impliqué, d'accord, et il n'y avait pas, donc, les participants ne savaient même pas que l'ASL était important dans cette tâche qui concernait l'anglais, d'accord. Mais les mots étaient choisis dans l'expérience de façon à ce qu'ils aient des traductions en ASL qui pouvaient avoir soit la même relation que celles qu'ils avaient en anglais, donc reliées comme en anglais, ou bien une relation opposée. D'accord, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. D'accord, donc, les mots en anglais « movie » and « paper », « cinéma » et « papier » n'ont aucune relation, ni morphophonologique, ils ne se ressemblent pas, ni bien sûr sémantique. D'accord, les signes correspondants en ESL, d'accord, n'ont pas de relation sémantique non plus, bien sûr, d'accord, mais vous le voyez aux photos que j'ai données ici, ils se ressemblent beaucoup du point de vue phonologique. D'accord, en fait, ce sont deux membres d'une paire minimale. C'est-à-dire que ce sont deux signes qui se ressemblent en tout sauf un paramètre. Vous voyez que les deux signes sont articulés avec les mêmes configurations de la main, dans le même lieu d'articulation et avec des mouvements qui se ressemblent beaucoup. Ce qui change, c'est l'orientation de la main dominante pour movie par rapport à paper. D'accord ? Donc, ici, nous avions un cas où les mots qui étaient montrés aux participants à l'expérience n'avaient pas de relation, donc la réponse exacte était « pas de relation », mais les mots dans la langue non utilisée, d'accord, mais peut-être coactive, il y avait effectivement une relation. Et ce qu'ils ont vu, c'est que la rapidité avec laquelle les participants à l'expérience répondaient à ces questions de relation entre les mots était conditionnée par la présence de traductions convergentes ou en conflit par rapport à la relation des mots en anglais. Donc on voit que la langue des signes influençait le comportement en anglais dans ce genre de tâches. D'accord ? Donc, tout ça est très intéressant, mais la plupart des recherches sur la coactivation des deux langues concernent le niveau lexical. D'accord ? C'est-à-dire qu'on s'est demandé si les propriétés des mots dans les deux langues d'une bilingue avaient une influence sur l'utilisation de la langue active. D'accord ? Mais nous savons que une langue, c'est beaucoup plus que tout simplement un lexique, d'accord ? Donc on peut se demander si cette coactivation se limite à l'accès, un double accès lexical, d'accord ? Donc un bilingue a deux lexiques et donc il accède simultanément à ces deux lexiques, ou bien si on peut avoir une coactivation qui va au-delà du mot isolé, et on peut s'imaginer si un bilingue, en fait, quand il parle ou elle parle une langue, est en train de silencieusement construire aussi une dérivation dans la langue coactive, mais silencieuse. D'accord ? Donc on peut se demander si cette coactivation va au-delà du mot. D'accord ? Et c'est ça vraiment ma question aujourd'hui. Alors, une façon de commencer à répondre à ces questions, c'est de regarder un autre phénomène qui est propre des bilingues et qui est ce qu'on appelle, avec beaucoup de mots, code switching ou code mixing, ou en français, je crois, commutation de code, ou aussi énoncié mixtilingue, c'est-à-dire la capacité qu'ont les bilingues de jongler très rapidement entre leurs deux langues dans la production et de changer de langue à l'intérieur de la même conversation, ou du même énoncé, ou même de la même phrase, ou même du même syntagme. D'accord ? Alors, longtemps, on a pensé que ce mélange de langues était le signal, c'était un problème. D'accord ? Donc souvent, longtemps, on a pensé que, par exemple, un enfant qui faisait un bilingue, qui faisait beaucoup de code mixing, était un enfant troublé, d'accord ? Qui avait une difficulté à séparer ses systèmes linguistiques. D'accord ? Mais depuis un certain temps, on sait qu'au contraire, d'abord, les bilingues ne mélangent pas leurs deux langues, ils construisent dès le début deux systèmes séparés, hein, et comme on l'a vu avec le cours de Luigi, dès les premiers jours de l'enfant, le bébé est en mesure de distinguer deux langues, et il construit les deux systèmes sur la base de cette perception très précoce. Mais au contraire, la capacité de faire code switching est vraiment la caractéristique des bilingues plus compétents. D'accord ? Plus un individu est bilingue dans le sens équilibré que j'ai donné au tout début, que j'ai cité au tout début du cours, et plus sa capacité de mélanger ou de jongler entre les deux langues sera développée. D'accord ? Donc, vraiment, le code switching est le produit du fait de connaître deux langues comme la coactivation. D'accord ? Et c'est probablement le reflet d'une coactivation. Donc, que font les bilingues quand ils font code switching ? Hein, ils font des choses très différentes. Et ici, je vous ai donné quelques exemples qui sont des exemples authentiques qui ont été produits par ma fille bilingue, français-italienne. Donc même si vous ne connaissez pas encore l'italien, vous pouvez voir avec le code couleur hein, ce qui se passe dans ces productions. D'accord ? Donc le premier exemple est un exemple très très fréquent, que même quelqu'un qui parle une deuxième langue de façon très superficielle peut faire. D'accord ? C'est une espèce d'emprunt sur le pouce. D'accord ? Donc elle est en train de parler français, et puis, à un certain moment, elle décide d'utiliser un nom en italien qui lui vient probablement à l'esprit plus facilement, plus rapidement, plus, qui sait quelle raison, d'accord ? Donc, j'ai mis le capote, mais je ne trouve pas les gants. Donc, ici, il n'y a pas grand mystère, hein, il y a une grammaire qui est utilisée, c'est la grammaire du français, et avec cette insertion lexicale, cet emprunt sur le pouce. D'accord ? Le cas en deux est déjà un peu plus intéressant parce qu'on voit qu'il y a une alternance de grammaire, si vous voulez. D'accord ? Donc, une première partie en vert qui est une phrase en italien et avec une coordination, une continuation qui est en français. D'accord ? Donc, cette alternance de deux langues est aussi très fréquente et il y a beaucoup d'études dans le domaine du bilinguisme pour comprendre quelles sont les frontières syntaxiques qui permettent cette alternance, quels sont les points dans la phrase où on peut passer d'une langue à l'autre. Et voilà, donc ici aussi, on peut imaginer qu'il y a d'abord une langue qui est utilisée et puis une autre, d'accord ? Et les deux sont alternés, d'accord ? Même si, hein, même dans cet exemple que j'ai donné, il y a quand même déjà des phénomènes intéressants, parce que même si les deux langues s'alternent en deux moments différents, il y a des relations qui relient les deux segments. Donc vous voyez par exemple, dans la partie française, il y a un pronom « le », et ce pronom « le » prend son référent dans la partie italienne. Donc il y a quand même des relations de co-référence qui sont mixtilingues. D'accord ? Donc même dans un exemple aussi simple, on voit quand même qu'il y a une certaine complexité dans la dérivation. On ne peut pas tout simplement dire qu'il y a deux moments nettement séparés. D'accord ? Le troisième exemple, c'est le plus intéressant, si vous voulez, le plus mystérieux. D'accord ? Vous le voyez avec les codes couleurs, c'est vraiment un grand mélange. D'accord ? Donc vous voyez qu'elle commence sa phrase en français, personne, après la négation est en italien, un réflexif italien, le verbe en français et l'objet indirect à nouveau en italien. D'accord ? Donc quelle est la langue qui est utilisée dans cet énoncé ? Est-ce qu'il y a une troisième langue que connaissent les bilingues, la langue mixte ? Ce sont des questions qu'on s'est posées très longtemps, hein, qui en partie ne sont pas encore, n'ont pas reçu de réponse définitive. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord ? Donc, que les passages d'une langue à l'autre sont régulés, donc il y a des règles, on essaye de déterminer quelles sont les règles. On sait qu'il y a des phénomènes très intéressants à enquêter. Regardez par exemple ici, vous voyez que la négation est en italien, non, hein, mais sa présence est déterminée par le français. C'est-à-dire qu'en italien, quand on a un mot négatif en position sujet, nessuno, ce serait en italien, on ne peut pas avoir de négation. Au contraire, une double négation affirmerait. D'accord ? Donc, et quand je l'ai interrogée, elle est positive, elle me dit « je ne peux pas ne pas mettre non, c'est obligatoire ». D'accord ? Donc, quelle est la règle qu'elle suit en ce moment ? C'est très intéressant, mais il y a une compétence qui est nécessaire. Et ce genre de production est peut-être la production qui demande un bilinguisme plus fort, hein, plus équilibré. D'accord ? C'est que des vrais bilingues, dans le sens que j'ai donné au tout début, qui peuvent faire ce genre de choses. D'accord ? Mais pour en revenir à notre question sur la coactivation, d'accord ? Donc ces phénomènes de code switching sont cohérents avec l'idée que les deux langues sont coactives, hein, mais la plupart des productions que j'ai montrées et qu'on a regardées dans les études sont compatibles avec l'idée que, en fait, ce qui est coactif, c'est au niveau purement lexical. D'accord ? C'est-à-dire que dans la majeure partie des phénomènes de code switching, peut-être pas dans l'exemple 3 que j'ai donné tout à l'heure, on peut décrire ce qui se passe avec l'idée qu'il y a toujours une seule représentation lexicale qui est construite et que donc il y a une seule grammaire qui est activée à tout moment. D'accord ? Et c'est l'hypothèse qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 de Myers-Cotton, qui dit que voilà, quand on fait du code switching, il y a toujours une langue qui donne le squelette grammatical, l'arbre, d'accord ? Et on peut varier le lexème ou le nœud terminal, on peut dire aussi, on peut décider de prendre le nœud terminal ou le lexème des deux listes lexicales qui nous sont disponibles si on est bilingue. D'accord ? Donc l'hypothèse a souvent été faite que donc, c'est seulement au niveau lexical qu'on peut jongler. D'accord ? Est-ce que c'est vrai ? Il est difficile de répondre à cette question en regardant ce que font les bilingues bimodaux. Les bilingues unimodaux, c'est-à-dire les bilingues avec la même langue. Pourquoi ? Parce que justement, de toute façon, le filtre articulatoire, d'accord, nous oblige à parler une seule langue à tout moment, et donc c'est difficile de voir exactement ce qui se passe au niveau abstrait. D'accord ? Il y a quand même des phénomènes qui semblent suggérer qu'il y a un peu plus que seulement le lexique qui est coactivé. D'accord ? Et ceci se trouve dans certaines productions qui sont très fréquentes chez les bilingues, qui sont des expressions nominales mixtes. D'accord ? Donc un point de commutation très facile pour les bilingues, c'est entre un article et un nom. D'accord ? Donc ici, vous voyez un exemple entre espagnol et anglais, « veo las houses ». D'accord ? Donc vous voyez, le verbe et l'article sont en espagnol et le nom est en anglais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article espagnol a besoin de s'accorder en genre et en nombre. D'accord ? C'est une règle de l'espagnol. Mais le nom anglais n'a pas de genre. D'accord ? Donc, le bilingue qui a produit cette phrase se trouve dans la nécessité de trouver un genre grammatical avec lequel accorder le déterminant. Et dans la plupart des cas, dans les productions spontanées des bilingues, on observe que le genre qui est choisi, d'accord, le trait de genre est celui qui correspond au nom qui n'est pas utilisé. Donc, le nom espagnol qui correspond à houses, casas et féminin, et voilà que l'article s'accorde avec le féminin. D'accord, ce n'est pas la seule stratégie possible. Hein, parfois, on a des stratégies de default. D'accord, mais surtout chez les bilingues qui sont très compétents dans les deux langues, on a cet effet. D'accord, et on ne va pas dire « veo los houses », c'est très bizarre pour un bilingue hispano-anglais. Donc c'est encore une fois une évidence qui montre que les deux langues sont coactives. D'accord ? J'ai accès au nom espagnol pendant que je parle, que je produis le nom anglais. D'accord ? Donc c'est encore une fois un phénomène de coactivation, mais qui implique un phénomène grammatical. D'accord ? Plus concrètement, comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe quand on fait « veo las houses » ? D'accord ? Il y a deux interprétations possibles, et après on va vraiment passer au bilingue bimodo. Donc une première interprétation, c'est celle que j'ai donnée très rapidement tout à l'heure, c'est l'idée que donc, le nom espagnol est actif dans l'esprit du locuteur, d'accord ? Et c'est l'origine des traits d'accord sur le déterminant. D'accord ? Donc il y a un phénomène d'accord entre ce qui est dit et ce qui est silencieux, ce qui est assez complexe, mais c'est tout ce qu'il y a. D'accord ? Mais il y a une autre hypothèse radicale qu'on pourrait faire. D'accord ? Et l'hypothèse radicale, c'est qu'en fait, quand un locuteur produit « ve olas houses », ce qu'il est en train de construire dans sa tête, c'est en fait deux phrases indépendantes parallèles. D'un côté, « ve olas casas », la phrase en espagnol, et de l'autre, la phrase en anglais, « I see the houses ». D'accord ? Et comme il n'a à disposition qu'un canal articulatoire, il est obligé de filtrer ce qui peut sortir de sa bouche, et donc il peut alterner ce filtre. D'accord ? Et donc, par exemple, il peut décider de dire « Veo las houses ». D'accord ? Donc, l'hypothèse pourrait être qu'en fait, dans sa tête, ce qui se passe, c'est la double activation complète de deux phrases et un filtrage dû aux limites articulatoires que nous avons, une seule bouche. D'accord ? Alors, vous comprenez que, étant donné ces prémices, les données des bilingues bimodaux deviennent très importantes. D'accord ? Parce que les bilingues bimodaux ont en fait deux canaux articulatoires, en grande partie indépendants. D'accord ? Les langues des signes sont articulées avec les mains et d'autres articulateurs, mais typiquement pas avec les cordes vocales, et elles sont perçues à travers les yeux. Et les langues parlées, elles sont produites avec l'appareil phonatoire et elles sont perçues à travers les oreilles. Donc, en principe, il devrait être possible de ne pas activer ce filtrage. Donc, regarder à ce que font les bilingues bimodaux devrait nous permettre de voir plus concrètement les limites, l'étendue, les modalités de cette coactivation des deux langues, d'accord ? D'une façon, certaine façon, libre de ce filtre articulatoire qui nous oblige, d'accord ? Donc, voilà qu'il faut regarder au bilingue bimodaux. D'accord ? Donc, juste un petit avertissement, il y a deux populations possibles qu'on peut qualifier de bilingue bimodaux. Il y a, vous savez peut-être que la plupart des surdités ne sont pas héréditaires, d'accord ? Donc, beaucoup d'enfants sourds naissent dans des familles avec des parents entendants. D'accord ? Donc, ils peuvent devenir bilingues tout en étant sourds. D'accord ? S'ils sont de la chance, effectivement, ils vont apprendre la langue des signes parce qu'ils vont être mis en contact avec d'autres personnes sourdes. Et ils vont probablement apprendre dans une certaine modalité la langue parlée, soit à l'écrit, soit à travers un processus d'oralisation, mais qui demande beaucoup de training, d'apprentissage explicite pour arriver à avoir accès à la langue parlée. D'accord ? L'autre population de bilingues, qui est celle sur laquelle je vais me focaliser, ce sont ce qu'on appelle les CODA, Children of Deaf Adults. Donc, c'est des enfants qui sont, disons, le contraire de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des enfants entendants qui naissent dans des familles de sourds sillons. D'accord ? Donc, ils vont apprendre la langue des signes de leur maman, enfin, à travers l'exposition parentale, comme tous les enfants, de façon spontanée. Et puis, bien sûr, ils vont apprendre la langue des signes parce qu'ils ont accès naturel à la langue, un accès naturel, donc avec d'autres parents, la grand-mère, un frère, ils vont apprendre et utiliser la langue parlée. Donc, je vais parler de ce que font les CODA plutôt que les bilingues sourds, parce que les CODA ressemblent un peu plus aux bilingues dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire qu'ils ont accès spontané, sans instruction aux deux langues, tandis que pour les bilingues sourds, ceci passe à travers de l'école, hein, pour pouvoir accéder à la langue parlée. Donc là, juste, je vais vous montrer très brièvement. Donc, les premières données dont je vais parler sont des données spontanées qu'on a recueillies avec deux équipes de recherche avec lesquelles je collabore, en Italie et en France. Et certains de mes collaborateurs sont ici, et co-auteurs sont ici. Je les citerai à la fin, je les remercierai là-bas. Pour les données spontanées, on s'est tourné vers les enfants. D'accord ? On a voulu regarder les enfants bilingues. Pas tellement parce qu'on était intéressé à des processus de développement, mais plutôt parce qu'on sait que les enfants bilingues font beaucoup de code switching. D'accord ? On le sait de la littérature sur le bilinguisme unimodal. Hein. Probablement parce que les enfants sont moins sensibles à la stigmatisation du code switching qui est propre de beaucoup de sociétés. Hein. Les enfants sont des êtres un peu plus libres que les adultes, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, on sait qu'ils produisent plus de code switching. Donc, comme on voulait voir ce qui se passait le plus possible, on voulait des données, d'accord, on s'est adressé aux enfants. Mais c'est des enfants assez grands qui ont tous, pas tous, hein, enfin, mais qui, des enfants, surtout pour le côté italien, des enfants tous de plus de 10 ans, et qui donc ont un système qui n'est pas encore stable, mais qui est proche d'un système stable. Donc ici, je vais tout simplement vous montrer, c'est tout à fait juste pour vous donner l'impression de ce que c'est qu'un CODA, un bilingue bimodal. Donc vous allez regarder, c'est des tout petits clips qui montrent ce que fait cet enfant blond. Hein, il y a deux enfants ici, vous regarderez l'enfant blond. C'est un enfant italien de Rome, et qui est le seul membre entendant d'une famille entièrement sourde, d'accord ? Et qui a un frère sourd, et maman, papa, grands-parents sourds, donc il est vraiment membre d'une communauté sourde, pour être, tout en étant entendant, d'accord ? Alors il peut faire au moins trois choses. Il peut signer, d'accord ? Et pardon pour le volume, c'est juste pour vous montrer que là, il signe comme le fait un sourd, d'accord ? Il est très fluent, il est très rapide, et il n'utilise pas la voix, parce qu'il sait, quand nécessaire, utiliser une seule langue. Hein, c'est aussi partie de la compétence bilingue, savoir non, quelle langue utiliser. D'accord ? Donc là, il racontait ses vacances, et il est très rapide, efficace. Voilà. Mais c'est aussi, il a aussi des copains entendants. D'accord ? Donc dans ce clip, qui est très, très, très rapide, c'est surtout à l'usage des personnes qui parlent italien ici. Les Italiens pourront apprécier qu'il a un accent régional très fort, d'accord ? Et donc vous allez le voir beaucoup gesticuler, mais ça c'est parce qu'il est italien, hein, parce qu'il est romain, mais il a juste l'accent romain et il parle comme un enfant romain de son âge. C'était juste pour vous dire, donc vous voyez que là, il est en train d'utiliser sa voix, il est en train de parler italien, il gesticule, mais il n'y a pas de signe, d'accord ? Et puis de temps en temps, quand il veut, d'accord ? Il peut faire cette autre chose, c'est-à-dire il peut mélanger les deux langues, et vous allez voir que ce n'est pas exactement comme le fait ma fille. D'accord ? Donc ici, il est en train de raconter un film passionnant, et il veut impliquer dans l'histoire son copain entendant et son petit frère sourd. Donc il fait ça. Désolée. Pour... Après, c'est aussi un enfant de son âge, donc ça finit avec une mimique. Mais vous voyez, ben, juste au niveau de l'impression, que c'est très différent de ce que vous avez vu dans les deux clips différents. D'accord ? Il utilise une voix, et c'est une voix un peu différente, certainement avec une prosodie différente. Et ce ne sont plus des gestes, mais ce sont quelque chose qui ressemble beaucoup plus à des signes. D'accord ? Donc, et ce que vous aurez observé peut-être aussi, hein, c'est que c'est simultané. D'accord ? Alors, cette observation, l'observation que les bilingues bimodaux n'alternent pas les deux langues comme le fait ma fille, mais les utilisent simultanément, remonte aux premières études de Karen Emory de l'Université de San Diego de son équipe, et elle a été confirmée systématiquement sur beaucoup de bilingues, dans des paires de langues très différentes. D'accord ? Donc, les bilingues bimodaux ne font pas code switching. Il n'y a pas des moments où ils signent et après ils changent dans le même énoncé, mais ils utilisent simultanément les deux canaux qu'ils ont à disposition. Donc vraiment, ils confirment très fortement le fait que ce qui est... que les deux langues sont coactives, hein, et que ce qui est coûteux, ce n'est pas la coactivation, mais c'est l'inhibition. Donc si on a deux canaux et on peut... ne pas silencieux une des deux langues, ben on le fait. D'accord ? Et ça a été confirmé pour le français, langue des signes québécois, pour le néerlandais, langue des signes du néerlandais, de Pays-Bas, et portugais, langue des signes brésilienne, et beaucoup, beaucoup de paires de langues. D'accord ? Et Karen Emory a appelé ça le code blending. C'est juste un néologisme pour distinguer du code switching. Blending, hein, ça veut dire mélange, en fait. Donc, si on regarde production spontanée des bilingues bimodaux, qu'est-ce qu'on voit ? D'accord ? On voit que quand ils activent cette modalité bilingue, ils font des productions simultanées, d'accord ? Donc du blending. Et quelles sont les relations entre les deux énoncés qu'ils produisent ? Okay ? Donc dans beaucoup de cas, ce qu'on observe, c'est une correspondance, d'accord ? Qui peut être soit systématique, soit sporadique. C'est-à-dire qu'ils vont produire des signes et simultanément, ils vont prononcer le mot correspondant à chaque signe. D'accord ? Il y a comme un alignement, presque mot à mot, entre langue des signes et langue parlée. D'accord ? Alors cet alignement lexical est compatible avec l'hypothèse que la coactivation, ce qui est facile pour un bilingue, c'est l'accès à deux lexiques, tout simplement. D'accord ? Je vous montre ici un exemple parce que c'est une petite fille plus jeune qui a été étudiée par mon étudiante Angélique Jabert. Elle est bilingue langue des signes française et français. D'accord ? Donc ici, elle est en train de raconter une histoire à sa maman et elle utilise du code blending. Et vous voyez que chaque mot, chaque signe presque, du moins les mots lexicaux, sont coproduits dans les deux canaux. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a cet alignement systématique. Parfois, cet alignement systématique passe à travers aussi des opérations de calque. C'est-à-dire que, dans certains cas, on observe qu'il y a la grammaire d'une des langues qui est respectée, donc l'ordre des mots est propre d'une des langues, et il est attribué aussi à l'autre langue. C'est-à-dire, pour maintenir cet alignement, l'énoncé d'une des deux langues ne va pas respecter les contraintes grammaticales de la langue en question, mais va plutôt calquer les contraintes grammaticales de la langue simultanée. D'accord ? Donc, encore une fois, ces données, je vais vous montrer un exemple, sont compatibles avec l'idée que ce qu'on peut faire, que ce qu'on peut coactiver simultanément, ce sont deux lexiques. Mais c'est une seule grammaire qu'on va projeter et qu'on va construire. D'accord ? Donc je vous montre cet exemple. Donc c'est toujours le petit garçon de tout à l'heure, d'accord ? Et il est en train de dire « Mes oncles vivent à Rome ». D'accord ? Mais il le lit d'une façon très spéciale, d'abord en faisant du code blending, c'est-à-dire en co-utilisant les deux langues simultanément. Vous voyez qu'il y a une congruence, c'est-à-dire que presque mot à mot, il y a une correspondante mot à mot dans les deux énoncés simultanés, mais l'ordre des mots n'est pas du tout l'ordre des mots qu'on aurait en italien. D'accord ? Le locatif en particulier est préverbal, ce qui est vraiment impossible en italien. D'accord ? C'est en fait l'ordre des mots propre de la langue des signes italienne, qui a des contraintes grammaticales très différentes de l'italien. D'accord ? Donc en fait, quand il parle italien, il est en train de faire un calque de la construction en langue des signes italienne. D'accord, c'est très rapide parce qu'il signe très rapidement. Je vous remontre. Ok. Mais bon, vous pouvez voir la glose. Il y a surtout ce locatif préverbal qui est certainement quelque chose qui vient de la liste. Mais un alignement. Donc, on peut dire qu'en fait, il y a la grammaire de la liste qui est responsable de tout ça et une double activation. D'accord ? Donc on peut représenter ça de façon un peu imagée, de cette façon. Enfin, imaginez que ce que fait cet enfant quand il produit cet énoncé, c'est qu'il construit un arbre, qui est un arbre qui obéit aux contraintes grammaticales de la LIS, de la langue des signes italienne, et puis il peut accrocher à cet arbre deux éléments lexicaux à chaque fois, parce qu'il a à disposition deux canaux d'articulation, donc pourquoi pas ? D'accord ? Donc, il accroche deux mots. Mais vous voyez que la coactivation ici semble limitée seulement à l'accès au lexique. D'accord ? Une variante de cette hypothèse un peu plus sophistiquée, que je vais juste citer, qui correspond à une idée du rapport entre syntaxe et lexique un peu différente, consisterait à imaginer que la syntaxe en fait ne combine pas des mots, mais elle combine quelque chose de plus abstrait, des traits grammaticaux, des morphèmes, et que l'insertion lexicale advient en un deuxième moment. On pourrait hypothéser que l'enfant qui produit la phrase qu'on a vue sélectionne ces mots, enfin ces morphèmes de deux listes différentes, la liste lys et la liste italienne, construit une dérivation syntaxique qui contient des éléments de ces deux listes, et puis insère deux fois le vocabulaire parce qu'il a accès à deux cadeaux. D'accord ? C'est plus ou moins la même chose, mais juste expliqué d'une façon un peu différente. D'accord ? Donc, très bien. Mais si on regarde toujours aux données spontanées de ces enfants, on observe que dans certains cas, ils font quelque chose de très différent. Donc, dans certains cas, au contraire, on observe que les deux séquences, enfin, les deux énoncés n'obéissent pas aux mêmes contraintes grammaticales. D'accord ? Donc parfois, on observe en particulier, pour ce qui est de l'ordre des mots, que quand les deux grammaires imposent des ordres des mots très différents, les enfants obéissent à ces deux contraintes différentes simultanément, avec le résultat qu'ils vont faire des énoncés blended avec des ordres des mots qui sont divergents et même contradictoires. D'accord ? Je vous montre un exemple, donc c'est toujours lui. Hein ? Donc, la phrase veut dire qu'est-ce qu'a mangé la grenouille ? D'accord ? Alors, la langue des signes italienne et la langue italienne sont des langues très intéressantes à observer. C'est pour ça, vous le verrez bien dans l'expérience dont je parlerai tout à l'heure, parce que elles sont très différentes du point de vue de l'ordre des mots. D'accord ? L'italien est une langue SVO, sujet, verbe, objet, et en général, les têtes de chaque syntagme précèdent leur complément, et c'est très très cohérent en italien. Et la langue des signes italienne est le contraire, c'est un peu l'effet, la langue miroir par rapport à l'italien. D'accord ? C'est-à-dire que l'objet précède le verbe, et en général, les compléments précèdent les têtes de tous les syntagmes, et même du point de vue de l'interrogative, vous voyez qu'en italien, l'élément interrogatif « cosa »,« what », est utilisé au tout début de la phrase, c'est obligatoire, tandis qu'en langue des signes italienne, c'est le tout dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Donc, vous allez voir la vidéo qui va être très rapide comme d'habitude. Hein ? Songez que tout simplement, grenouille, il va l'articuler comme ça. Ça, c'est grenouille en langue des signes italienne. Et quoi ? C'est plus ou moins comme ça. D'accord ? Donc, vous allez voir qu'il va dire « cosa ha mangiato la rana ». D'accord ? Où il y a un alignement toujours rythmique, mais pas du tout du point de vue de ce qu'il dit.
Cosa mangia la rana?
D'accord, je vous remontre peut-être. Ah, non.
Cosa mangia la rana?
D'accord. Donc, il fait ça de façon spontanée et naturelle. Hein, et vous voyez qu'ici, il est difficile de dire qu'il y a une seule grammaire qui est responsable. Laquelle, d'ailleurs. Ici, vous avez un autre exemple, mais je vais le sauter pour des raisons de temps. D'accord ? Donc, ces données semblent suggérer qu'au contraire, hein, les enfants bilingues bimodaux sont en mesure de produire deux énoncés simultanément qui répondent à deux dérivations syntaxiques très différentes. D'accord ? Mais cette conclusion n'est pas entièrement convaincante pour une raison très précise, c'est que l'ordre des mots a un statut très controversé dans la théorie syntaxique. C'est-à-dire que l'idée classique, c'était que l'ordre des mots est vraiment du domaine de la syntaxe. D'accord ? Donc, deux ordres des mots différents, ça veut dire deux grammaires différentes, deux structures différentes. Plus récemment, dans les 30-40 dernières années, on a réfléchi sur le fait que, au fond, l'ordre des mots, qui a à voir avec la dimension linéaire, d'accord, ne fait pas partie vraiment du domaine de la syntaxe, qui, comme l'a dit Luigi tout à l'heure, concerne la hiérarchie. D'accord ? Donc, dans cet autre point de vue, l'ordre des mots est en fait un phénomène, on pourrait dire, pour exagérer, phonétique. Enfin, un phénomène qui concerne le moment où les structures hiérarchiques de la syntaxe doivent être écrasées et linéarisées pour qu'elles puissent être articulées. D'accord ? Donc, si c'est vrai, on peut interpréter ces données que je vous ai présentées, par exemple l'exemple sur la grenouille que je vous ai présentée, de façon très différente. D'accord ? Donc, une première hypothèse qui serait celle plus fascinante serait que pour produire ces deux phrases, l'enfant est obligé de construire deux arbres syntaxiques très différents. D'accord ? Mais on pourrait ici imaginer, alors là c'est un peu plus abstrait, que la syntaxe est quelque chose effectivement de plus abstrait, qui ne codifie que les relations hiérarchiques, d'accord, que je ne peux pas représenter sans représenter l'ordre, d'accord, sur un plan, mais donc qui ne codifierait que les relations hiérarchiques, et qui peuvent être, ces relations hiérarchiques peuvent être traduites dans l'articulation de deux façons différentes dans les deux langues. D'accord ? Donc, il y aurait par exemple le fait que l'élément interrogatif sécommande le verbe, hein, c'est une relation hiérarchique dont Luigi certainement nous parlera, et ce sécommande, peut-être, cette sécommande, je crois, peut être traduite de deux façons différentes dans les deux langues. D'accord ? Mais l'idée, c'est qu'il y a une seule représentation syntaxique abstraite qui est responsable des deux énoncés simultanés. D'accord ? Dans ce cas, encore une fois, on pourrait dire que l'activation, la coactivation qui est propre des bilingues se limite au lexique et à ce qui concerne le lexique, donc par exemple l'articulation. Et certaines autres données qu'on a observées dans les productions spontanées semblent aller dans cette direction. D'accord ? Les enfants, je parlerai très peu de ce type de blending qu'on a observé parce qu'il est très intéressant, mais on ne le comprend pas trop. Hein. C'est un peu comme la congruent lexicalization, le troisième type de tout à l'heure. Donc parfois, les enfants font une chose un peu différente par rapport à celle que j'ai montrée jusqu'ici. Donc au lieu de redoubler les deux énoncés sur les deux canaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent un seul énoncé mais dont les éléments sont éparpillés sur les deux canaux. D'accord ? Donc ce petit garçon, cette petite fille, ce qu'elle veut dire, c'est que le chasseur parle à Blanche-Neige. D'accord ? Donc elle va articuler le verbe dans les deux langues. D'accord ? Et après, en langue des signes italienne, elle va donner le sujet, cacciatore, chasseur. Et en italien, elle va donner le complément d'objet direct. Le résultat est un seul énoncé. D'accord ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il semble... Donc on peut avoir une distinction de rôle thématique, de fonction grammaticale entre chasseur et Blanche-Neige sans que ces deux éléments aient aucun ordre des mots. Ils sont simultanés. D'accord ? Donc ceci semble aller dans la direction que l'ordre des mots n'est pas si nécessaire à la syntaxe vu qu'on peut produire des distinctions syntaxiques sans utiliser l'ordre des mots. Hein, je vous présente... Donc elle dit parla. D'accord. Et on a vérifié que c'est bien ce que la phrase veut dire, etc. D'accord. Donc les données sur spontanées ne nous permettent pas vraiment de trancher encore une fois si la coactivation est limitée à cet accès, double accès au lexique ou bien si elle peut aller au-delà. D'accord. L'ordre des mots semble nous dire quelque chose, mais ce n'est pas décisif vu le débat actuel sur le statut de l'ordre des mots. D'accord. Donc pour vraiment essayer d'avancer sur cette question, on s'est donc tourné vers la compréhension. D'accord. Et là, je vais présenter des résultats en partie provisoires d'une expérience qui est encore en cours. D'accord. Donc le raisonnement est très simple. Hein. Si les langues sont toutes les deux actives, d'accord, on s'attend à ce que des stimuli blended, enfin cross-modaux, soient traités de façon plus rapide que des stimuli unimodaux. D'accord. Et encore une fois, Karen Emery a été la première à construire une expérience pour se poser cette question. Et elle a montré qu'effectivement, les bilingues bimodaux étaient plus rapides à répondre dans une tâche de catégorisation sémantique quand les stimuli auxquels ils étaient exposés étaient doubles, simultanément bimodaux, que quand ils étaient unimodaux, donc soit seulement speech, parler ou soit seulement signe. D'accord ? Et la question qu'on s'est posée, vous l'aurez peut-être compris, c'est est-ce qu'on peut répliquer ces résultats de Karen Emery, non pas avec des stimuli purement lexicaux, mais au niveau de phrases ? D'accord ? Est-ce qu'un bilingue bimodal qui est exposé au genre de code blending que je vous ai montré, est-ce qu'il est plus rapide à faire une tâche quand il y a le blending ou quand il y a un seul stimuli. Parce que ça pourrait nous dire quelque chose. D'accord ? Donc ce sont en fait quatre expériences dont je vais parler, qui ont été utilisées avec les mêmes participants. Donc ce sont deux et deux expériences qu'on a conduites parallèlement dans deux pays, en France, avec des bilingues, des codas français, langue des signes française, et en Italie, avec des codas langue des signes italienne, italien. Donc la première expérience est une expérience qui tout simplement veut répliquer les résultats de Karen Emery sur l'accès lexical, d'accord, et dans les deux langues, donc deux expériences. Et la deuxième, qui est celle qui nous intéresse le plus, est une espèce de réplication de l'expérience de Emery, mais en utilisant des phrases. Hein, je vais vous montrer les détails, d'accord. Donc la méthode est toujours la même. Ce sont des codas adultes, hein, voilà que ce sont des adultes, et ce sont des expériences en ligne où les participants devaient répondre à une très simple question et on mesurait le temps de réponse concernant des items qui pouvaient être dans trois conditions contrebalancées, soit seulement speech, d'accord, seulement parler, soit seulement signé, soit code blended, d'accord. Et pour ce qui est de la méthode lexicale, enfin la tâche lexicale, on a vraiment répliqué la méthode de Karen Emory. Donc les participants voyaient 80, enfin il y avait 90 noms, 45 comestibles et 45 non comestibles. Et la question est-ce que tu peux manger ça? Est-ce que c'est comestible? D'accord? Et je vais sauter quelques détails. D'accord. Je vous montre quelques exemples. Donc, en haut, vous voyez l'expérience, enfin, les items propres de l'expérience française, et en bas, les items propres de l'expérience italienne. D'accord. Mais juste pour vous donner une idée. Donc, speech, on lit.
Ananas. Ananas.
Ça, c'était l'italien. Sign, on lit. LSF. LIS, langue des signes italienne. D'accord. À noter, ce ne sont pas la même langue, c'est pas la même langue, donc des signes différents. Et le code blending.
Ananas. Ananas.
D'accord. Donc, quelle était la prédiction pour cette tâche lexicale? Eh bien, la prédiction était qu'on réplique l'étude de Karen Emory, c'est-à-dire résultat, c'est-à-dire qu'il y avait un avantage de l'item, de la condition code blending, que les participants étaient plus rapides à répondre au troisième type de stimuli par rapport aux deux premiers. D'accord? Et c'est effectivement ce qu'on est en train de trouver. Hein. Donc, on est en train de trouver, parce que ce n'est encore pas définitif, on est encore en train d'avoir des participants qu'on recrute, les réponses aux items blended étaient significativement plus rapides que les réponses aux conditions unimodales. D'accord. Il y a encore, c'est seulement une tendance pour ce qui concerne le français, enfin le code blending par rapport au français, mais c'est quelque chose qui, nous pensons, va devenir significatif très rapidement. D'accord. Donc, si vous avez les détails, je crois que je vais sauter ça. D'accord. Passons à la tâche qui nous intéresse, qui est la tâche syntaxique. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé en fait deux langues, hein, deux paires de langues? Parce que, vous l'avez peut-être compris, la condition du bilinguisme est très différente. C'est-à-dire qu'en français et en langue des signes française, l'ordre des mots est plus ou moins systématiquement le même. D'accord. Le français est SVO et la langue des signes française est en grande partie SVO. Donc il est très facile d'avoir des code blending congruents. D'accord. Tandis que, on l'a vu, l'italien et la langue des signes italienne sont vraiment deux extrêmes typologiques. Et donc, typiquement, quand on a du code blending, on peut avoir des code blending incongruents, comme celui que j'ai représenté. Parce que justement, en italien, l'ordre est SVO de façon très forte, et en LIS, c'est plutôt SOV de façon très forte. D'accord. Donc, ce qu'on voulait se demander, c'est est-ce qu'on trouve un avantage à la condition bimodale au niveau de phrases, comme on l'a trouvé au niveau de lexique, enfin de mots isolés, et est-ce qu'on le trouve dans les deux conditions, d'accord? Dans le cas d'ordre des mots congruents et dans le cas d'ordre des mots incongruents, d'accord? Et c'est probablement très important de voir ça. Pourquoi? Parce que si les énoncés sont congruents, d'accord, les énoncés code blended sont congruents, en fait, les participants ne peuvent pas répondre à la question avant d'arriver à la fin. Parce que, comme les mots sont alignés avec les signes, ce n'est qu'à la fin de l'énoncé qu'ils auront le sujet, le verbe et l'objet qui leur est nécessaire pour répondre à la question. Tandis que, dans le cas de l'italien, langue des signes italienne, à partir du deuxième élément de l'énoncé, ils ont tout ce qu'il faut du point de vue de l'accès lexical. C'est-à-dire qu'ils ont vu ou écouté le sujet, le verbe et l'objet en langue des signes italienne. Donc, si ce qui compte c'est l'accès lexical, on s'attendrait à ce qu'ils aient un avantage. Ils peuvent répondre avant, si on peut avoir un accès lexical immédiat, tout simplement. D'accord. Si au contraire il faut construire les arbres, d'accord ? Alors peut-être construire deux arbres divergents demande plus de temps, d'accord ? Donc si il faut coactiver deux représentations syntaxiques, on s'attend peut-être au contraire que c'est plus facile si ces deux arbres sont superposés que si ces deux arbres sont très différents. D'accord ? Donc les prédictions sont très différentes selon qu'il y a une coactivation au niveau purement lexical, l'accès au lexique, ou bien une coactivation qui implique une dérivation grammaticale. D'accord ? La méthode était plus ou moins la même, hein, mais la question c'était est-ce que cette phrase est vraie ou fausse en général ? D'accord ? Donc c'était des phrases très banales qui parlaient de situations très communes et les participants devaient dire si en général c'est vrai ou pas. Vous verrez un exemple. D'accord ? Donc crucialement c'était que des phrases transitives, verbe, sujet, verbe, objet, et on a manipulé dans les deux expériences les données de façon que en LSF, c'était toujours congruent, donc la condition blend était toujours congruent, S, V, O dans les deux langues. Et là, pour l'expérience italienne, au contraire, c'était toujours incongruent. D'accord ? Donc il y avait S, V, O en italien et simultanément S, O, V en lisse. D'accord ? Parce que c'est ça qu'on voulait vérifier. D'accord ? Et c'était les mêmes participants qui ont participé aux tâches lexicales. Donc je vous donne un exemple. Crucialement, on avait fait en sorte que pour pouvoir répondre à la question, on avait vraiment besoin de calculer le rapport entre le sujet et le verbe et l'objet. Il était nécessaire de combiner tout ça pour pouvoir répondre à la question sur vrai ou faux. D'accord ? Donc là encore, en haut, c'est en fait l'expérience en France, et en haut, vous avez l'expérience en Italie. Mais je vais les montrer comme dit, en alternance. Donc, français seul.
Les prêtres croient en Dieu.
Ce qui est généralement vrai, c'est ça l'idée. Hein. En italien.
I preti credono in Dio.
LSF seulement. D'accord ? Donc, Dieu. Hein. Et vous allez voir, c'est le même signe en langue des signes italienne. Hein. Mais vous allez voir qu'il apparaît à un moment différent, parce que justement, c'est SOV. D'accord ? C'est clair ? Et puis voilà la condition qui nous intéresse le plus, code blending.
Les prêtres croient en Dieu. I preti credono in Dio.
Ah, vous voyez que credono est un moment de mismatch. Okay. Donc, quelles étaient les prédictions ? Bon, il pourrait ne pas y avoir de différence entre les deux langues, hein, ce qui voudrait dire que l'avantage n'a rien à voir avec l'ordre des mots. D'accord ? Je vais un peu plus rapide. Ou bien on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait deux résultats différents. Et je l'ai déjà dit, donc une possibilité, c'est qu'on trouve un avantage, qu'on trouve un avantage pour la condition congruente, donc en français, langue des signes, mais pas d'avantage pour la condition incongruente, donc italien, langue des signes, ou bien on pourrait s'attendre aussi le contraire. Les deux hypothèses sont possibles, d'accord ? Si on a un avantage seulement pour l'expérience française, alors ceci suggère que le traitement de structures incongruentes a un coût, et donc ce n'est pas tout simplement l'accès au lexique. Si au contraire on trouve que le code blending donne un avantage seulement pour les structures incongruentes, c'est-à-dire seulement en italien, langue des signes italienne, alors ça veut dire que c'est l'accès lexical qui compte et ils ont un avantage parce qu'ils ont un accès lexical qui est plus rapide. Voilà les résultats qui sont encore préliminaires, comme je le disais, mais qu'on peut résumer de façon un peu rapide de la façon suivante. D'accord ? Pour l'expérience française, on a le même résultat dans cette tâche syntaxique qu'on l'a vu dans la tâche lexicale. D'accord ? Donc cet avantage du code blending, il est maintenu. D'accord ? Ça ne fait pas de différence. On a le même résultat. D'accord ? Les participants sont plus rapides à répondre à la question vrai ou faux quand ils sont exposés au code blending plutôt qu'à l'item unimodal. D'accord ? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que, au contraire, pour les Italiens, on trouve une différence. On ne réplique pas au niveau syntaxique, au niveau de phrase, l'avantage total qu'on a trouvé au niveau de mots. C'est-à-dire que quand les structures sont incongruentes, on voit qu'il y a un ralentissement. Hein, le ralentissement, on l'observe dans ces données provisoires, surtout par rapport, en comparant l'item code blended avec les thèmes en speech, enfin italien seulement, l'italien est plus rapide. D'accord ? On n'a pas cet avantage par rapport aux signes, mais cette asymétrie est probablement due au fait que ce sont des codas adultes et qui donc sont peut-être des bilingues un peu déséquilibrés par rapport à la langue dominante qui est la langue parlée. D'accord ? Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans la paire français-langue des signes, on trouve toujours un avantage du code blending au niveau de phrases, mais on ne le trouve pas dans la population italienne, ce qui semble suggérer que la structure syntaxique a un poids. D'accord ? Donc je vais en arriver aux conclusions parce que je crois que j'ai fini mon temps, j'ai été un peu lente, d'accord. Donc ce sont des résultats préliminaires parce que ce ne sont pas des résultats définitifs du point de vue de l'expérience et parce qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est très fascinant, il y a beaucoup de choses à comprendre, d'accord. Mais ces résultats quand même suggèrent que oui, on a accès à deux lexiques. D'accord ? Mais c'est que ces deux items, enfin deux lexiques, on n'a pas accès aux items lexicaux dans les deux langues de façon fragmentaire, d'accord ? Mais dans une dimension purement temporaire ou linéaire, mais plutôt portée par des structures syntaxiques. D'accord ? C'est ce qu'on voit en comparant les deux expériences. D'accord ? Donc, ce premier résultat est compatible avec l'hypothèse qu'effectivement, les bilingues ne se limitent pas à coactiver le deux lexiques, mais peuvent aussi coactiver deux structures syntaxiques en parallèle. Et donc, pour finir vraiment très rapidement, il semble suggérer que peut-être les bilingues peuvent littéralement parler deux langues, même quand ils en parlent une seule. En fait, ils sont en train de parler deux langues. Mais à voir et à confirmer avec d'autres recherches. Je vais m'arrêter ici.